Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui nous écoutez en ce lundi de Pentecôte, 7h42. Merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, Pascal Pavajoux.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL,
merci
Pascal Pavajoux. Bonjour. D'autant plus que c'est donc lundi de Pentecôte, jour férié pour beaucoup ou jour de travail par solidarité. On en parle depuis le début de la matinale sur RTL. Justement, est-ce que vous êtes partant pour une deuxième journée de solidarité parce qu'il faut bien financer la dépendance et c'est une piste envisagée par le gouvernement?
Non, on voit bien effectivement cette espèce de journée de dépendance qui est devenue à peu près n'importe quoi, parce qu'on a pas loin de 10 modèles différents aujourd'hui pour la traduire dans les faits, ne sert à rien. Donc c'est certainement pas pour en avoir une deuxième. Par contre, ce qui est certain, qu'on a un problème de dépendance. Il y a une question qui est la dépendance, qui est une question de société, mais qui mériterait, là pour le coup, un vrai débat, une véritable concertation, une vraie politique publique, financée de façon spécifique, en lien, selon nous, avec la sécurité sociale. Mais en l'attendant, là, sur ce sujet-là, je suis assez étonné, alors que ce besoin public est réel, que le gouvernement ne lance pas concrètement la discussion et la concertation sur ce sujet. Voilà un sujet de société sur lequel ceux qui sont les garants de l'intérêt général devraient ouvrir réellement le débat de façon globale.
Donc vous voudriez un débat public, national, pendant plusieurs mois, qu'on réfléchisse ensemble à la façon de financer
une question parce qui nous concerne tous. Parce que le besoin est un besoin de société, et donc la réponse doit être une réponse publique, en lien avec la sécurité sociale, comme nous le demandons.
Et pour finir, donc, l'idée d'une journée qui serait donnée par les travailleurs du privé pour financer à hauteur, là aujourd'hui, ça rapporte 2,5 milliards, on en a besoin de cet argent pour financer.
Oui, mais
vous dites non.
C'est une façon détournée de répondre à un vrai problème et à un problème général et collectif. Donc, et de toute façon, ça reste cosmétique et n'importe quoi. Là, franchement, le sujet de la dépendance mérite autre chose que de demander encore des espèces de solutions et cosmétiques et qui n'ont aucun sens.
Cosmétique, et n'importe quoi. Vous avez répondu à cette question. Une deuxième piste de réflexion sur un sujet important aussi a été confirmée hier par Bruno Le Maire. Est-ce qu'il ne serait pas logique de baisser les aides à l'emploi quand baisse le chômage?
Ah, parce que
si baisse le chômage.
Non, mais
si
c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, excusez-moi, mais on continue dans l'illégalité de traitement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez une augmentation du nombre d'emplois, par exemple industriels, et il faut s'en féliciter. Et ce n'est pas lié uniquement à un moment donné à une mesure fiscale. C'est lié à un contexte général, y compris à un contexte européen. C'est pas parce que vous avez de la création d'emplois, ce dont tout le monde se félicite, dès lors que c'est du vrai emploi en CDI ou de l'emploi statutaire, que pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'en trouver, il faudrait leur baisser leurs droits, en l'occurrence, justement, à pouvoir être indemnisés ou à avoir une solidarité sociale. Encore une fois, c'est une politique inégalitaire, en permanence avec une logique de chacun pour soi. Ça sous-entend derrière.
D'une politique déséquilibrée.
C'est une nouvelle preuve d'une politique inégalitaire. C'est toujours la même chose. C'est une politique, certains disent, c'est une politique pour les riches. C'est une politique pour les 10%, 5% de premiers de cordée. C'est-à-dire ceux d'entre nous qui ont la chance ou la capacité ou les moyens de pouvoir se passer de systèmes collectifs, de droits collectifs. Ceux qui ont la chance de réussir seuls. Mais 95% d'entre nous ne sont pas dans ce cadre-là. Et ce n'est pas de la responsabilité, encore une fois, de ceux qui sont garants de l'intérêt général, que d'avoir une politique pour ceux qui ont déjà tout.
Pascal Pavajoux, Bruno Le Maire précise, il faut être honnête, que les aides maintenues seraient ciblées sur les plus fragiles.
Tiens,
l'idée, justement, c'est de dire que ces personnes-là...
On va cibler sur les individus, on va individualiser les aides. Sous-entendu, c'est toujours la même chose.
Quel est le
c'est
problème celles à faire
et
ça
ceux... Mais on est toujours dans une logique de transfert de responsabilité. C'est plus, on va dire, à l'intérêt général de répartir.
Ceux qui s'en sortent mieux ont moins besoin d'aide, ceux qui en ont besoin en auront plus. C'est ce que nous explique le gouvernement.
Non, c'est pas vrai. Relisons ce qu'il a dit. C'est pas en baissant justement les aides pour ceux qui restent encore au bord du chemin qu'on va mieux les aider. L'objectif, il doit être au contraire que lorsqu'on a la chance, à un moment donné, d'avoir suffisamment, de répartir. Vous savez, le président de la République a dit « Je ne crois pas à la théorie du ruissellement ». Oui, on l'a vu. Avec lui, c'est de l'évaporation.
Les premiers de cordée, en fait...
Les premiers de cordée, ils ont coupé la corde depuis bien longtemps.
Pascal Pavajoux, on vous entend, vous êtes très clair ce matin. Puisque vous pensez tant de mal du gouvernement... Puisque vous pensez tant de mal de la politique du gouvernement, je rectifie, pourquoi résister à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, qu'il l'a répété hier au grand jury, il plaide une nouvelle fois pour une unité populaire... syndicats, partis, associations, tous ensemble samedi prochain dans la rue.
Nous sommes une organisation syndicale et rien qu'une organisation syndicale, nous l'avons toujours été, nous le resterons. Là, il y a un appel d'ordre politique avec des partis politiques, vous venez de le rappeler, en démocratie, c'est leur droit le plus absolu. Nous ne nous associons pas. Maintenant, vous savez, les femmes et les hommes qui sont...
Les femmes, non, nous ne faisons absolument pas de politique. Sur la construction
nous ne faisons,
de la loi,
justement, nous ne faisons jamais de politique, quel que soit le gouvernement. Mais attendez, nous participons, nous construisons à un moment donné la logique du modèle social par nos revendications, par nos négociations, par nos propositions et de temps en temps par nos oppositions. Nous participons à ce débat démocratique, mais nous restons sur notre champ qui est un champ syndical. Nous ne jugeons pas la catégorie des effectifs qui sont élus démocratiquement. Par contre, ce que nous jugeons, c'est leur politique. Quand c'est bien, nous le disons. Quand c'est pas bien, nous le disons également.
On a un sentiment que dans un monde qui bouge, où les frontières ont explosé d'une certaine façon entre la droite et la gauche, on voit bien que les Français n'adhèrent plus à des modèles de partis traditionnels. Vous ne vous remettez pas en cause.
Mais bien sûr que si.
Vous restez dans votre précaré et les vaches sont bien gardées.
C'est pas parce que nous sommes indépendants que nous restons dans notre précaré. Encore une fois, nous avons plein de modernités internes qui sont nos intentions d'évoluer. Nous faisons des propositions, nous faisons des contre-propositions. Mais pour pouvoir être entendu, il faut pouvoir être écouté. Ne nous ramenez pas encore une fois sur le débat d'ordre politique et politicien.
Je ne fais pas. Mais
pour ce qui est de force ouvrière, oui, c'est plus que définitif. Là-dessus, c'est tout simplement, c'est intrinsèque à ce que nous sommes et à ce que nous avons été et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous ne faisons pas
vous
de politique. Nous
perdrions
tout ce que nous sommes. Nous sommes une organisation syndicale, rien qu'une organisation syndicale. Après, vous savez, les femmes et les hommes qui sont adhérentes à force ouvrière sont des citoyens qui sont libres. Ils font absolument ce qu'ils veulent.
C'est vrai que c'est un peu hypocrite. Alors, allez-y, les adhérents de Force Ouvrière,
Ouvrière n'est pas directeur de conscience. Enfin, je veux dire, les femmes et les hommes qui adhèrent à Force Ouvrière font heureusement ce qu'ils veulent.
Oui, sauf que vous les encouragez presque à y aller.
Aller
manifester et bien sûr que samedi.
Mais qu'est-ce que, je viens de vous dire exactement
vous
le contraire. Force Ouvrière.
Je n'ai pas à les dissuader.
Ouais. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Maintenant, Force Ouvrière, en tant qu'organisation syndicale libre et indépendante, ne peut pas se joindre à un mouvement politique organisé ou lancé avec qui que ce soit.
Mais par exemple, la CGT, FSU, est-ce que vous diriez qu'ils prennent un risque en le faisant?
Écoutez, moi je ne suis pas représentant ni de la CGT ni de la FSU. Ça appartient à leur mandat interne au niveau de leurs exécutifs. Ça leur appartient.
Donc vous ne voulez absolument pas dire... Vous dites je prendrai un risque, mais les autres, je ne me prononce pas.
Non, moi je ne prends pas de risque. Je rappelle simplement que Force Ouvrière est indépendante de tout parti politique, notamment comme de tout type idéologique, courant de pensée, philosophique ou quel qu'il soit.
En tout cas, les manifestations se succèdent. Il y a plusieurs fronts. Demain, il y a une grande journée d'action dans la fonction publique. Le secrétaire d'État à fonction publique, ce matin dans Libération, l'affirme textuellement, je le lis, il n'y aura pas de remise en cause du statut des fonctionnaires par ce gouvernement. Vous êtes rassuré?
Non, pas du tout, puisque c'est déjà en cours. Encore une fois, on est dans une vraie politique. C'est comme l'histoire de la SNCF.
Il n'y aura pas de remise en cause du statut des fonctionnaires.
Bien sûr, on en reparle dans quelques mois, on en reparle dans 6 mois en l'occurrence.
Donc
et c'est déjà en cours.
Pas.
Quand vous attaquez le fait de dire qu'on peut recruter par contrat et non plus par statut, et que ça devient petit à petit la norme, on est déjà dans une logique de casse ou d'attaque du statut.
Ça fait des années que dans la fonction
Je vous dis absolument pas le contraire. Contrairement à ce que certains pensent, le monde ne s'est pas créé. Et la France n'ont pas été créés en mai 2017. Donc il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été...
Il y a eu beaucoup
de choses qui ont été faites antérieurement et pas forcément des bonnes choses. Donc là-dessus, il y a une logique et une continuité par rapport à ces politiques d'austérité, de compétitivité, de flexibilité. La différence, c'est que nous avons une vision. Et ça, il faut le reconnaître. Il y a une vision générale, quasi philosophique, qui est celle de déprotéger les gens, de casser les cadres collectifs.
En
l'occurrence du gouvernement et du président de la République. Par exemple, sur la SNCF, bien évidemment que la question de l'ouverture à la concurrence contre laquelle nous sommes pour plein de raisons est quelque chose qui date de 15 ans, donc ça n'a pas été inventé en mai 2017. La différence, c'est qu'on utilise, il est utilisé cette ouverture à la concurrence pour casser le statut des cheminots, ce que personne ne demande. Là, on a à nouveau une politique d'austérité, de réduction de la dépense publique, et on va utiliser avec l'histoire de CAP 22, l'espèce de comité de pseudo-experts qui est en train de
rouler, c'est ça.
Voilà, qui est en train de rentrer, qui est en train de rendre son rapport. Une logique qui est de casser le cadre collectif. On l'a été auditionné, on a vu le tendanciel tel qu'il était. On en reparlera quand il sera rendu public.
Une logique de dire,
c'est une logique de statut peau de chagrin. C'est-à-dire, vous dites que pour ceux qui sont en place, on maintient le statut, mais pour tous les gens qu'on recrute, tant à la SNCF que par exemple dans la fonction publique, on le fait sous un prisme uniquement de contractualisation et d'individualisation et de précarité.
Vous êtes en train de nous dire que dans la fonction publique, la logique sera la même Exactement. Dans la SNCF, c'est que tout nouvel entrant,
c'est ce que je vous dis,
tout nouvel entrant n'aura plus le bénéfice du statut de fonctionnaire.
En tous les cas, qu'il sera privilégié le cadre contractuel.
Il sera privilégié, oui. C'est-à-dire que on commencera par proposer ça au nouvel entrant.
Absolument.
C'est ce que vous avez lu dans le rapport des experts
sur le combattant. C'est ce que je vous dis qui va être rendu en termes de conclusion. C'est-à-dire, c'est la même méthode que pour la SNCF. Déprotéger les gens et renvoyer les gens finalement hors cadre collectif qui est pourtant le fondement même de notre société, de notre République, et qui fait qu'en France, nous avons ce record du monde qui est que 93% des travailleurs sont couverts par une convention collective ou par un statut. Moi, je vais à Londres pour la Confédération internationale des syndicats à partir de mercredi prochain. Mmh. Je peux vous dire que quand on discute avec l'ensemble des organisations syndicales du monde entier, ce chiffre-là de 93% de travailleurs couverts par une convention collective ou par un statut, ils nous l'envient tous. Parce que c'est justement ce cadre-là qui fait que on fait du syndicalisme. C'est défendre avant tout le plus grand nombre, et notamment celles et ceux, les 7% qui restent encore au bord du chemin.
Et quand donc Éric Dussopt dit ça dans Libération, il n'y aura pas de remise en cause du statut des fonctionnaires, vous dites il ment.
Je ne dis pas qu'il ment, je dis qu'il y a déjà des remises en cause du statut depuis un an dans le cadre de la politique
alors,
du gouvernement.
Pas, mais il ne dit pas la vérité ou la réalité qui sera mise en...
Rendez-vous dans quelques semaines.
Bon. La SNCF, Édouard Philippe invite les syndicats vendredi à discuter de la réforme. Ouvrière y sera.
Oui, bien sûr, nous y étions.
Vous irez,
la fois. Alors, moi, je serai à Londres, mais mes camarades seront présents. J'étais à la première...
Partout.
Exactement.
Vous serez donc Force Ouvrière, en tout cas, à ce rendez-vous. Vous aviez demandé, d'ailleurs, c'était sur RTL, c'était une de vos premières déclarations fortes, moratoire au gouvernement sur la grève SNCF.
Absolument.
Ça a fait flop.
Oui, alors ça a fait flop, et en même temps, aujourd'hui, on se retrouve dans la situation qui est du fait que le gouvernement a cassé donc dogmatiquement, idéologiquement, le statut et renvoie à une pseudo-négociation les interlocuteurs sociaux en disant « j'ai créé un champ de ruines », ce qui est hyper anxiogène, « essayez de vous débrouiller pour avoir des mesures, on ne sait pas trop quoi, pour éviter que ce soit le pire ». Mais en l'occurrence,
on va essayer de traduire ce que vous dites, parce que vous connaissez très bien vos sujets.
Ce que nous demandions, c'était de dire... Il y a l'ouverture à la concurrence. Nous n'y sommes pas favorables, mais on a bien compris qu'on est déjà au quatrième épisode de la série, donc ça va être difficile de revenir au début. Mais en l'occurrence, vous n'êtes pas obligé de toucher au statut. Si vous voulez toucher au statut, faites les choses dans l'ordre. Commencez par la négociation entre les interlocuteurs sociaux, c'est-à-dire les organisations patronales de la branche ferroviaire et les organisations syndicales.
L'idée, Pascal Cavazzo, c'est d'assurer...
Nous avons fait même une proposition, parce que c'est important. On dit qu'on est toujours contre. On a proposé, au-delà de ce moratoire, de dire, prenons le statut qui existe et faisons comme ça a été le cas lors de l'ouverture à la concurrence de l'énergie, c'est-à-dire élargissons ce statut à l'ensemble des entreprises qui seront ouvertes à la concurrence ou au droit à la concurrence. Ça nous a été refusé idéologiquement, parce que idéologiquement, ce que fait le gouvernement avec son projet de loi, c'est qu'il utilise même le projet de réforme ferroviaire d'ouverture à la concurrence pour aboutir à ses fins, et ses fins n'ont qu'un seul but, casser le statut, parce que c'est un cadre collectif.
C'est la conclusion, vous voudriez que le gouvernement donne la possibilité...
Un mois. La France, elle attend impatiemment l'économie française.
Un mois
de moratoire. Vous croyez franchement que tout le monde attend...
Vous maintenez votre proposition
Pour négocier. Il n'y a pas de négociation. Vous cassez dogmatiquement le truc et après vous dites essayez de négocier sur champ de ruines.
Il est encore temps.
Mais bien sûr qu'il est encore temps.
Alors on verra ça vendredi.
On
vous à Londres, mais vos mandants seront à Matignon pour discuter avec le Premier ministre. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Cette journée de dépendance ne sert absolument à rien alors que nous en avons cruellement besoin. Solution cosmétique, c'est n'importe quoi, vient de nous dire Pascal Pavageau. FO qui maintient son refus de rejoindre la grande manif des Insoumis avec la CGT. Force Ouvrière ne fait pas de politique et reste indépendante, a ajouté le secrétaire général de Force Ouvrière. Enfin, 93% des travailleurs français sont couverts par une convention collective. Le gouvernement prépare des remises en cause dans la fonction publique comme à la SNCF. Rendez-vous dans quelques semaines. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.